Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Yves Calvi, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct dans cette matinale. On vous surnomme donc désormais Monsieur Patrimoine, ce qui est plutôt flatteur, vous en conviendrez. En septembre dernier, le Président de la République vous a confié une mission d'identification et de sauvegarde de notre patrimoine. C'est l'intitulé exact. Et vous nous dévoilez ce matin, Stéphane, une liste de 250 monuments en péril que les auditeurs d'RTL pourront retrouver dans le journal Le Point et, je le précise, sur le site RTL.fr. Une liste de 250 chefs-d'œuvre en péril qu'il est urgent de restaurer. Alors, 250 sur plus de 2000, comment s'est fait ce premier choix? Et est-ce qu'il est définitif?
C'est pas un choix définitif. D'abord, il y a le comité de sélection. C'est vrai que c'est une sorte d'exclusivité pour Le Point qui a déjà la liste, notre liste de travail. Il se trouve que mardi, on a la réunion du comité de sélection qui va affiner. Pourquoi? Parce que c'est un... Ça vient de la base, c'est les Français qui se sont mobilisés. Vous savez que les Français se sont inscrits sur le site participatif du ministère de la Culture. Ça s'est fait en relation, évidemment, avec les services du ministère de la Culture. Donc, ils ont mis un site, une sorte de plateforme participative. Les gens ont inscrit un monument, où qu'ils voyaient, où qu'ils possédaient, où qu'ils connaissaient, près de chez eux. Et donc, c'est allé très vite. Nous, on a instruit les dossiers en disant, très bien, voilà, remplissez la fiche. Une fois qu'on a la fiche, on voit si le propriétaire, qui n'est pas eux, est défaillant ou pas. On est obligé d'écarter. Quand un propriétaire est défaillant qui ne veut pas faire les travaux, vous ne pouvez pas les faire.
On
ne peut pas le contraindre, sauf si l'État décide de financer les travaux à sa place. Mais c'est une autre procédure. Et donc, on a étudié tous les dossiers et on a pris les plus urgents. Et donc, avec la Fondation du patrimoine qui continue son travail sur le terrain de financement du patrimoine en danger.
Donnez-moi trois exemples qui vous touchent. Alors, on a bien compris que la liste n'est pas définitive.
Il y a des ponts, par exemple. Il y a des ponts. J'ai vu qu'il y avait, un pont. J'aime bien le patrimoine lié à l'eau, par exemple. Il y a le pont vieux de la Voûte-sur-Loire, par exemple. J'ai vu aussi des ruines archéologiques à Chaponneau,
Dans le Rhône.
Il y a partout en France, je trouve, il y a des lavoirs, il y a des moulins, il y a des choses très diverses. Je vais vous dire.
On ne fait pas que restaurer les châteaux pour dire les choses simplement.
Non, il n'y a pas que les châteaux et le patrimoine religieux, même si le patrimoine religieux est véritablement en danger, et c'est la part principale de ce patrimoine en danger. Mais il y a le vernaculaire, les ponts, les lavoirs, les fontaines, les puits. Vous avez aussi le patrimoine du XXe siècle, le théâtre de Bar-le-Duc, par exemple. Vous avez du patrimoine des jardins. Vous avez la maison de Pauline Viardot, on a entendu le reportage. Oui. Tout à l'heure, c'est une maison d'illustres. Pierre Loti à Rochefort.
Comment ces bâtiments et ces monuments se sont-ils retrouvés dans un pareil état et dans cette situation ?
C'est toute la question. C'est toute la question. Je découvre ça. Je suis peut-être un peu naïf, mais je pensais... Mais vous savez, j'ai compris une chose en France. Il y a toujours une ligne budgétaire qui s'appelle « entretien ». Et cette ligne budgétaire d'entretien du patrimoine est souvent utilisée pour autre chose. Et donc, or, moi qui ai restauré mon propre monument, j'ai vu ce que c'était. Si vous n'entretenez pas le monument tous les ans, si vous ne faites pas les petits travaux d'entretien, eh bien, à la fin, 3 ans après, la facture est 3 fois plus lourde.
En fait, c'est une de vos grandes conclusions et elle est extrêmement intéressante. Si je suis bien le sens de votre travail, vous nous dites qu'on restaure parce qu'on n'a pas entretenu en temps et en heure. C'est bien ça ?
Exactement. Exactement. Et puis, il faut aussi le dire, je le dis sur le patrimoine religieux, qui pose un vrai problème. C'est plus un enjeu électoral. Quand vous êtes un maire d'une petite commune et que vous avez une église sur les bras pour 140 habitants et que ça vous coûte 1 million, vous n'y arrivez pas. Surtout que d'abord, les gens veulent la voirie, veulent l'école, veulent la station d'épuration des eaux, etc. Donc, il y a d'autres priorités que l'église. C'est une vérité essentielle. Alors, dans notre pays. Les gens sont attachés à ce que les églises soient sauvées, mais que font-ils pour les financer.
Le nerf de la guerre, Stéphane, c'est évidemment l'argent.
Oui.
Est-ce qu'on a une évaluation de ce que pourraient coûter ces rénovations et surtout, où va-t-on trouver les sous? Comment on finance tout ça?
C'est toute la question. Alors, certains disent, et les interviews du Point ne sont pas tendres, évidemment, j'ai lu ça avec intérêt, c'est que oui, c'est à l'État de le faire, mais l'État n'a pas d'argent pour ça, n'a plus. C'est son devoir, mais on n'y arrive plus. Et donc, est-ce qu'on doit laisser tomber notre patrimoine? Non, on doit le sauver. Ce patrimoine appartient à tout le monde. Patrimoine, c'est un bien commun, collectif. On en est tous les dépositaires et les défenseurs. Donc, il faut trouver des financements. Moi, j'ai suggéré un certain nombre d'idées. C'est le but de ma mission. Alors, c'est vrai que j'ai été un peu vite, je mets les pieds dans le plat, je dis tout ce que je pense, j'ai pas de filtre.
Mais il a fallu bousculer beaucoup de monde, notamment au ministère de la Culture.
Oui, mais la ministre est très à l'écoute. Et puis, les services du ministère de la Culture m'ont aidé. Et je dois dire, c'est grâce à eux eux aussi qu'on a pu vérifier que tous les dossiers que la Fondation du patrimoine proposait, qu'on recevait sur la plateforme, étaient valides. Parce qu'il y a des dossiers, sur 2000 dossiers, on en garde 250. Ça veut dire que les autres seront financés d'une autre façon, mais ne sont pas prioritaires, disons.
Il y a des initiatives citoyennes, il y a des start-up pour rénover des bâtiments, des plateformes de financement participatif, je pense notamment à D'Artagnan.
À D'Artagnan, ils ont fait la mode chandonnier, ils font partout, ils m'aident pour le musée des tissus de Lyon, dont je suis devenu une sorte de fer de lance avec le comité d'honneur que je préside. Mais c'est vrai que partout, il y a des voix, des jeunes qui se lèvent, qui disent « on ne va pas laisser tomber notre patrimoine, parce que c'est l'identité, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est de l'économie positive et dynamique dans les territoires. »
En quoi ?
Mais parce que les villages meurent, la moitié de notre... Moi, je suis très attaché à mon village et à la ruralité en France, je peux vous dire que la moitié du patrimoine en péril est dans des villages de moins de 2000 habitants. On ne peut pas les laisser tomber. C'est la raison pour laquelle le président m'a dit d'agir et me laisse faire. Alors peut-être qu'il me voit en s'amusant, il me voit faire mettre les pieds dans le plat, dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Mais moi, je le fais.
Est-ce que vous avez écarté, une fois pour toutes, l'appui financier de l'État dans cette affaire ?
Écoutez, l'État a une enveloppe de 326 millions d'euros pour le patrimoine en général. Je suis un peu surpris quand je vois que le Grand Palais va coûter 466 millions d'euros, c'est-à-dire c'est un peu plus que cette enveloppe-là, et que moi, gentiment, avec la loto du patrimoine que j'ai réussi à imposer et à faire voter, avec l'aide de Gérald Darmanin et des députés, que je remercie, eh bien, on va réussir peut-être à avoir 20 millions. C'est une goutte d'eau, mais c'est déjà ça.
C'est très peu, non ?
Mais c'est très peu. Et je dois donc trouver d'autres sources novatrices de financement. J'ai quelques idées. Je veux créer un National Trust à la française.
Qu'est-ce que
C'est-à-dire des monuments qui vont être soutenus par les Français qui auront, comme je ne dis pas un titre de propriété, mais qui pourront visiter les monuments avec une carte d'abonnement, libre accès à tous ces monuments. Je travaille sur cette idée avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux. Il y a d'autres idées. On va sortir un livre bientôt sur Péril en la demeure où tous les écrivains, une trentaine d'écrivains français vont écrire une nouvelle sur le patrimoine au profit de la mission Berne.
Une dernière notion, nous sommes la première destination touristique au monde.
89 millions de visiteurs. On va leur montrer
quoi. Ils viennent pour voir ça.
Ils viennent pour voir ça. Nos églises, nos cathédrales, nos châteaux, nos monuments, nos ponts, nos villages. Mais c'est ce qui me révolte le plus, c'est qu'on n'a pas l'impression. On me dit toujours, mais combien ça coûte ? Et moi je dis, mais combien ça rapporte ? 500 000 emplois en France, 500 000 emplois directement liés au tourisme patrimonial.
Gardez votre enthousiasme.
Ah oui, je ne vais pas lâcher.
Continuez de vous battre pour notre patrimoine.
Je vais y perdre des plumes, je le sens, parce que c'est dur dès que vous touchez à la sphère politique, mais j'y vais, je fonce avec ma franchise, mon franc-parler et ma conviction.
La liste des monuments en péril révélée par Le Point en partenariat avec RTL, tous les deux sont à retrouver notamment sur le site rtl.fr et puis vous, on vous retrouve à 11h, vous serez en présence d'une princesse ce matin.
Oui, c'est vrai, enfin, elle n'est pas vraiment princesse, c'est Charlotte Casiraghi qui fait des livres de philosophie et c'est passionnant. On va parler de la passion, tout ce que vous connaissez.
À tout à l'heure,
à
la bonne heure.
Merci.